Pour la chronique environnement d'aujourd'hui, c'est Caroline Collin qui est avec nous, responsable des communications du Cobali. Comment tu vas, Caroline?
Ça va bien dans les circonstances, ça va.
Ah oui, hein, c'est pas mal la réponse de tous en général parce que oui, il y a le télétravail qui existe, heureusement, oui. Mais il y a toujours les petits côtés négatifs à ça.
Ben c'est ça, c'est sûr que d'avoir les enfants à la maison avec tout ça, ça complexifie un peu la chose, mais coudonc, on n'est pas les seuls dans cette circonstance-là.
Oui, c'est ça. Donc, si jamais on se fait interrompre par un de tes enfants, on va tous être très compréhensifs.
Bon, super, merci.
Alors, aujourd'hui, on va parler des lacs qui sont en ce moment probablement oui. soit gelés ou bien peut-être qu'ils commencent à dégeler, là.
Oui, ça commence un petit peu, mais il reste que la majorité sont quand même encore assez gelés. Mais bon, c'est le printemps, hein, la température se réchauffe, fait que je me suis dit, bon, on prend un petit peu d'avance, on peut se le permettre.
Ben oui, très certainement.
Oui. Donc, on dit, bon, dans la MRC, Antoine Labelle, hein, qu'on a 4500 lacs et rivières. La dernière fois, on a parlé de la rivière du Lièvre. Là, cette fois-ci, les lacs, je vous pose la question, est-ce qu'on les connaît vraiment? Bon, c'est sûr qu'on aime les voir, s'y baigner, y naviguer, y pêcher, mais est-ce qu'on s'intéresse à comprendre leur fonctionnement? Mm-hmm. Puis pour commencer, ben, je te poserai une question plutôt simple. Un lac, c'est quoi?
J'irai avec un étendue d'eau. C'est pas oui. mal ma définition qui est assez simple, mais peut-être un peu, il manque de recherche un peu.
Ben écoute, c'est un point de départ, hein? Est-ce que tu aurais d'autres choses à me dire pour décrire un lac?
Ben c'est sûr que la fonction, je vais être honnête avec toi, la fonction d'un lac, je sais pas trop à quoi ça sert.
Bon, ben écoute, ça tombe bien, on va jaser de ça. dans le fond, c'est ça, c'est qu'on a de la misère à aller un petit peu plus loin souvent que, comme tu l'as dit, un étendue d'eau. Puis c'est intéressant de se pencher, je pense, sur le sujet parce que, bon, on entend beaucoup dire hein, que c'est important de protéger nos lacs, de faire attention à leur santé, qu'il faut avoir une bande riveraine qui est bien végétalisée, qu'il faut avoir des bonnes pratiques de navigation, par exemple, de faire attention pour pas faire des vagues près des rives, de laver nos embarcations aussi quand on change de plan d'eau, bon, etc. Sauf que pour bien comprendre l'importance de tout ça, il faut aussi comprendre ce que c'est un lac. C'est quoi les différentes composantes d'un lac, puis surtout comprendre le fonctionnement général de tout ça.
Et je suis sûre que toi qui travailles au Cobali, tu dois vraiment le savoir, c'est quoi un lac?
Écoute, avec mes collègues, oui, on s'est penché là-dessus, évidemment. Et puis, je te répondrai d'abord que c'est beaucoup plus qu'une grosse piscine, là, comme on a parfois tendance à le penser.
Oui.
En fait, on conçoit à tort qu'un lac, c'est simplement une étendue d'eau, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, une espèce de grosse cuve qui est remplie d'eau puis qui est entourée de terre. Mais dans le fond, c'est tellement plus complexe que ça. Faut réaliser qu'un lac, dans le fond, ça fait partie d'un ensemble qui est plus grand que lui. Qui est connecté à des ruisseaux, des petits cours d'eau qui arrivent dans le lac ou qui en ressortent. Pour illustrer ça plutôt simplement, là, on pourrait prendre l'image d'un système sanguin chez l'humain. Donc, le lac, c'est le cœur. Ensuite, les ruisseaux qui alimentent le lac, ben, ce sont les veines. Puis enfin, la décharge du lac, hein, c'est-à-dire le cours d'eau qui permet de vidanger le lac, ben, c'est l'artère. Puis tout ça, dans le fond, c'est aussi ce qu'on appelle un bassin versant de lac. Donc, en bref, là, un lac, c'est loin d'être quelque chose qui est fermé sur lui-même. D'ailleurs, l'eau, parfois, on peut penser qu'elle est, disons, stagnante.
Oui.
Mais c'est pas tant vrai que ça. Hein. L'eau circule dans un lac au fond comme elle circule dans une rivière, mais à la différence, évidemment, qu'elle le fait sur un laps de temps beaucoup plus long. Donc, l'eau va y demeurer beaucoup plus longtemps que dans une rivière. Et ce laps de temps-là, ben, va varier d'un lac à l'autre selon la profondeur, selon le nombre de ruisseaux et la taille des ruisseaux aussi qui arrivent dans ce lac-là pour l'alimenter. Donc, tout ça, ben, ça fait en sorte que l'eau d'un lac, elle est beaucoup plus fragile aussi. Donc, c'est d'autant plus important de faire attention à ce qui se rend dans le lac, que ce soit l'eau qui ruisselle sur la terre, sur les berges ou encore l'eau des ruisseaux, justement.
Et il y a aussi des poissons dans un lac, par exemple, il y a de la vie?
Oui, exactement. Donc, un lac, dans le fond, c'est aussi un milieu de vie, donc un écosystème où foisonne une immense biodiversité, dont seulement une petite partie est visible à l'œil nu. Donc, tu as parlé des poissons, c'est vrai. Mais il y a aussi les plantes aquatiques, bon, qu'on apprécie peut-être un peu moins quand vient le temps d'aller se baigner dans un lac, mais qui jouent pourtant un grand rôle autour, autant pour la faune aquatique que pour la qualité de l'eau. Mais ça va même bien au-delà de ça. Par exemple, il y a beaucoup d'insectes qui passent une grande partie de leur vie dans les lacs à l'état de larves. C'est le cas des éphémères, là, des petits insectes qui durent, qui vivent seulement là, 2 jours à l'extérieur des lacs.
À part, j'imagine, Caroline, d'être un petit peu désagréable pour ceux qui aiment se baigner, ben c'est sûr que ça doit nourrir les poissons un peu.
Exactement, c'est une nourriture importante pour eux, entre autres, hein, parce qu'évidemment, bon, on pourrait parler de grenouilles et puis d'autres éléments de la faune comme ça. Puis, il y a toute une vie aussi microbienne qui est microscopique dans un lac. Et puis, ces micro-organismes-là sont essentiels pour la santé du lac et aussi pour la faune et la flore qui l'habitent. Puis, bon, sans entrer dans les détails, là, je suis loin d'être une chimiste, mais il faut ajouter à ça aussi toute la composition chimique de l'eau, qu'on pense, par exemple, à l'oxygène ou les nutriments, comme le fameux phosphore là, qu'on a beaucoup parlé là, avec les épisodes d'algues bleu-vert. Mm-hmm. Puis, dans le fond, il y a tout un équilibre naturel qui s'installe entre toutes ces composantes-là. Puis, ben, c'est sûr que lorsqu'il y a un changement par rapport à l'une d'elles, ben, ça a un impact sur tout le reste, hein, une espèce d'effet domino, une sorte de réaction en chaîne.
Est-ce que tu fais référence à nous, les humains, les activités qu'on a avec le lac?
Et oui, effectivement.
Okay. Oui.
Bon, mais c'est pas nécessairement consciemment ou par mauvaise volonté là qu'on vient chambouler l'équilibre naturel, nous les humains. C'est plutôt par méconnaissance justement du fonctionnement d'un lac bien souvent. Puis aussi parce que parfois on veut faire en sorte de transformer les lacs pour qu'ils ressemblent à notre vision idéale de ceux-ci. Je m'explique. Si je te dis par exemple de penser à un lac, ben, il y a de fortes chances que l'image qui va te venir en tête ressemble à ceci. Bon, une belle plage de sable, de l'eau bleue claire, limpide, un beau fond propre, en parenthèse, des poissons qu'on aime manger, donc la truite, des dorés, quelques oiseaux, des canards.
Oui, c'est ça. Ben, ça ressemble un petit peu à ça, mais j'imagine qu'il y a les deux images. Il y a cette image-là, puis une image d'une eau un petit peu plus verte, là, de temps en temps. Ça doit dépendre de la connaissance de chacun.
Oui, évidemment. Ça, c'est vraiment grosso modo, hein, en généralisant. Mais donc, cet idéal de lac-là, dans le fond, dans la nature, ça n'existe pas vraiment, hein, parce que finalement, c'est pas vraiment viable. C'est ça, dans le fond, c'est pas vraiment compatible avec la réalité écologique dont on a parlé plus tôt, hein, toutes les interdépendances entre les différentes composantes d'un lac. Par exemple, quand on enlève le bois mort, là, dont il y a une partie qui surgit de l'eau pour nettoyer notre bord de lac, ben malheureusement, on vient de priver à ce moment-là les tortues peintes, une sorte de tortue qu'on a quand même assez présente au Québec, d'une partie importante de leur habitat, parce qu'elles se servent de ces billots qui flottent là pour se reposer puis se chauffer au soleil.
Oh, donc, pauvre tortue!
Oui, puis pourtant, ben, on apprécie les voir, mais c'est ça, on enlève ces billots-là sans trop savoir que, malheureusement, on vient de les priver d'une partie de leur habitat. Dans le fond, quand on choisit d'habiter hein, sur le bord d'un lac, on le fait évidemment pour avoir la vue sur ce lac-là, mm-hmm. puis pour les activités qu'on va pouvoir y pratiquer, hein, que ce soit le bateau, la baignade, du kayak, la pêche, etc. Mais ce privilège-là d'habiter sur le bord d'un lac vient aussi avec des responsabilités, puis oui, des contraintes. Il faut se rendre compte, dans le fond, que le lac, il n'existe pas simplement pour répondre à nos besoins humains, hein, parce mm-hmm. que dans le fond, c'est pas un milieu humain, justement, c'est d'abord et avant tout un milieu naturel. Bien qu'il puisse répondre, évidemment, à certains de nos besoins humains, on parle alors de services écologiques, c'est pas sa raison d'être première. Donc, il faut apprendre à concilier nos usages humains du lac en fonction des besoins naturels de ce lac-là, puis de la capacité à supporter nos usages plutôt que l'inverse, partout. Donc, de demander au lac de s'adapter à nous.
Mais oui, ben merci beaucoup pour cette sensibilisation sur le lac. Puis, en ce moment, Mère Nature nous remercie probablement de rester chez nous un petit peu. Elle est en train de se renouveler.
Oui, exactement.
Alors, si nos auditeurs veulent en savoir plus, vous allez consulter, comme à l'habitude, le site web du Cobali à cobali.org et la page Facebook du Cobali. Sinon, la chronique est aussi disponible sur le site de cflo.ca.
Exactement. Puis, je voudrais juste préciser qu'on a maintenant une chaîne YouTube sur laquelle on retrouve, entre autres, là, la web-série qu'on vient de lancer. Puis, on peut y entendre dans cette web-série-là des acteurs de l'eau de toute la zone de gestion du Cobali, donc incluant la rivière du Lièvre, évidemment, parler de leurs actions pour protéger l'eau, justement. Donc, à chaque vendredi d'ici le 8 mai, on va rendre disponible une nouvelle capsule de cette série-là. Donc, j'invite les gens à prendre quelques minutes pour visionner ça parce que c'est vraiment inspirant. Puis bon, avec la période de confinement qu'on connaît actuellement, ben disons qu'on a un petit peu plus de temps libre pour faire ça.
Oui, t'as bien raison. C'est une belle initiative, hein? Bravo pour ça. J'imagine que c'est dû à la oui. pandémie que vous avez eu cette initiative-là.
Non, en fait, ça a été tourné l'été dernier. C'est juste qu'on attendait un petit peu plus, justement, l'arrivée du printemps là, pour lancer ça. On se disait que c'était un petit peu plus un momentum là, pour le faire.
Ah, ben super. Eh bien, c'était Caroline Collin, qui est responsable des communications au Cobali. À la prochaine et prends soin de toi. Bon télétravail.
Merci. Bonne journée.